William Chambers Morrow, le faiseur de monstres. Un jeune homme d'apparence élégante, mais sous l'évidente influence de sérieux troubles cérébraux, se présentait un matin à la porte d'un singulier vieillard connu comme chirurgien d'une remarquable habileté. La maison était une construction en briques parfaitement démodée et d'aspect bizarre et primitif, que son existence ne s'expliquait que par l'éloignement du quartier où elle était située. Elle était vaste, triste et sombre, avec de longs corridors et de grandes pièces lugubres, bien trop vastes pour le petit ménage, le mari et la femme, qui l'occupaient. Décrire la maison, c'est faire le portrait de son principal locataire. Il savait se montrer aimable au besoin, mais restait néanmoins un mystère vivant. La femme, elle, chétive, pâle, taciturne, évidemment malheureuse, peut-être témoin de choses répugnantes, exposée aux angoisses et victime de la crainte et de la tyrannie. Mais ce ne sont là, après tout, que des suppositions. Il pouvait avoir 65 ans environ, et elle, on lui en donnait 40. Il était maigre, grand et chauve, avait la figure mince et rasée, et des yeux vifs, très vifs. Il ne sortait jamais et paraissait malpropre. L'homme était fort, la femme faible. Il dominait, elle souffrait. Bien que chirurgien d'une adresse peu commune, sa clientèle était presque nulle. Il était rare, en effet, de voir ceux qui connaissaient sa grande habileté montrer assez de courage pour se risquer dans la lugubre habitation, et quand ils s'y décidaient, il leur fallait faire la sourde oreille à toutes les vilaines histoires qui circulaient à son sujet. Oh, ce n'était pour la plupart que des exagérations auxquelles donnent naissance ces expériences de vivisection. Il était fanatique de chirurgie. Le jeune homme qui se présenta le matin du jour dont nous parlons était un grand et beau garçon, mis d'un caractère faible, évidemment, et d'un tempérament maladif, nature sensitive, aussi facilement la proie de l'exaltation que de l'abattement. Un seul regard suffit à convaincre le chirurgien que son visiteur était atteint de troubles cérébraux sérieux. Jamais sur un visage il n'avait vu plus profondément gravé le masque de la mélancolie fixe et irrémédiable. Un étranger n'est pas soupçonné. Il n'eut pas soupçonné que la maison était habitée. La porte d'entrée, vieille, gauchie et gondolée par le soleil, était fermée à clé. Et les minces volets d'un verre passé étaient clos. Le jeune homme frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, en vain. Il consulta un carré de papier, vérifia le numéro de la maison, puis avec l'impatience d'un enfant, lança un furieux coup de pied dans la porte d'un air qui laissait prévoir beaucoup d'autres. La réponse, cette fois, ne se fit pas attendre. Il entendit un pas furtif dans le vestibule. Une clé rouillée grinça dans la serrure et un visage effilé se montra dans l'entrebâillement de la porte. « Êtes-vous le docteur ?» demanda le jeune homme. « Oui, 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 entrez !» répondit le maître de la maison. Le jeune homme entra. Derrière lui, le vieux chirurgien referma la porte et avec soin tourna la clé. « Par ici, » dit-il, se dirigeant vers un escalier branlant. Le jeune homme le suivit. Le chirurgien gravit l'escalier, prit à gauche un étroit corridor où régnait une odeur de moisie, le longea, faisant sonner sous ses pas les lamelles disjointes du parquet, et arrivé au bout, ouvrant à sa droite une porte, il fit signe aux visiteurs d'entrer. Le jeune homme se trouva dans une chambre agréable, meublée très simplement à l'ancienne mode. « Asseyez-vous, » dit le vieillard. Et il disposa le siège de façon à ce que son visiteur fît face à une fenêtre donnant sur une muraille se dressant à 6 pieds de la maison. Il ouvrit les volets. Une lumière pâle pénétra dans la pièce. Puis il s'assit près du jeune homme, bien en face, et d'un œil scrutateur qui avait toute la puissance d'un microscope, se mit à diagnostiquer son cas. « Eh bien ? » interrogea-t-il enfin. Le visiteur, gêné, s'agita sur sa chaise. « Je suis venu vous voir, » finit-il par balbutier, « parce que je suis tourmenté. »« Ah ? » « Oui, vous, j'ai... enfin, c'est-à-dire... j'y renonce. »« Ah ?» Et il y avait dans cette exclamation un mélange de pitié et de sympathie. « C'est bien ça, oui, j'y renonce, » ajouta le visiteur. Il tira de sa poche une liasse de billets de banque et avec plus grand sang-froid les compta sur ses genoux. « $5 000, » dit-il avec calme. « Ils sont pour vous. C'est tout ce que je possède. Mais je présume, enfin j'imagine... Non, c'est pas le mot juste, je suppose. Oui, c'est bien le mot, je suppose. Je suppose que $5 000, est-ce bien la somme exacte? Laissez-moi compter. » De nouveau, il compta les billets. Et ces $5 000 seront des honoraires suffisants pour ce que je désire de vous. Les lèvres du chirurgien eurent un plissement de pitié, de dédain, peut-être aussi. Mais que désirez-vous de moi? Demanda-t-il d'un air indifférent. Le jeune homme se leva, regarda autour de lui d'un air mystérieux, s'approcha du chirurgien et lui mit la liasse sur les genoux. Puis il se pencha et lui chuchota quelques mots à l'oreille. Ces mots produisirent sur lui l'effet d'une pile électrique. Le vieillard sursauta brusquement. Puis se redressant d'une pièce, il empoigna son visiteur avec colère et lui plongea dans les yeux son regard aussi tranchant qu'un couteau. Ses yeux flamboyaient et il ouvrait la bouche pour lancer quelques rudes imprécations, quand soudain il se contint. Toute colère disparut de son visage, qui n'exprima plus que de la pitié. Il relâcha son étreinte, ramassa les billets épars, et les rendant à son visiteur, il lui dit lentement, « Je n'ai nul besoin de votre argent. Vous êtes tout bêtement absurde. Vous croyez dans la peine. Eh bien, vous ne savez pas ce que c'est que la peine. Votre seule peine est de ne pas savoir la moindre virilité. Vous êtes simplement fou. Oh, je dirais pas pusillanime. Vous devriez vous remettre aux mains des autorités et vous faire envoyer pour y vivre un traitement dans quelque hospice d'aliénés. » Le jeune homme sentit vivement l'insulte voulue. Dans ses yeux passa une lueur dangereuse. « Chien que vous êtes, Osez m'insulter ainsi, cria-t-il. Il vous sied de prendre de grands airs vertueux, indignés, vieil assassin que vous êtes. Vous ne voulez pas de mon argent, hein? Et quand un homme vient à vous, de lui-même, et vous le demande, vous vous emportez et repoussez son argent. Mais qu'un de ses ennemis vienne et vous paye, oh, vous ne serez que trop bien à se disposer. Combien de vilainies semblables avez-vous pas commises dans votre misérable taudis? Il est heureux que la police ne l'ait pas envahi et n'ait pas apporté pelle et pioche pour la circonstance. Savez-vous ce qu'on dit de vous? Croyez-vous donc avoir tenu vos volets assez hermétiquement clos pour qu'aucun n'ait pu les traverser? Où cachez-vous vos instruments infernaux? Il en était arrivé à un état de vive colère. Sa voix était rauque, forte et rude. Les yeux injectés de sang lui sortaient des orbites. Son corps tout entier frémissait et ses doigts se crispaient. Mais il avait devant lui son maître. Les deux yeux adverses se trouvaient en lui leur route. Et le résultat ne fut pas long. « Bien, asseyez-vous, commanda la voix du vieux chirurgien. C'était l'ordre d'un père à son enfant, d'un maître à son esclave. La colère du visiteur tomba et, faible, vaincu, il s'abattit sur sa chaise. En même temps, une animation insolite éclaira la physionomie du vieux chirurgien. Aube d'une idée étrange, morne rayon échappé à la fournaise de l'abîme sans fond, lumière dangereuse qui illumine la route des enthousiasmes. Le vieillard, un instant, resta plongé dans une rêverie profonde, tandis que des éclairs d'avide intelligence perçaient momentanément le nuage des sombres méditations qui lui couvraient le visage. Puis éclata la large flamme d'une détermination impénétrable. Il y avait en elle quelque chose de sinistre, comme si ce fût agi du sacrifice d'une chose jusque-là tenue pour sacrée. Après une lutte, l'intelligence l'emportait sur la conscience. Prenant une feuille de papier et un crayon, le chirurgien scrivit soigneusement les réponses aux questions que d'un ton péremptoire il posa à son visiteur relatives à son nom, son âge, son lieu de résidence, ses occupations, sa famille, etc. « Quelqu'un sait-il que vous êtes venu frapper à cette porte ?» demanda-t-il. « Non. Vous le jurez, mais votre absence prolongée fera naître des inquiétudes et entraînera des recherches. » « Oh, j'ai prévu cela. Comment ? Ben, en jetant, en venant, une lettre à la poste annonçant mon intention de me noyer, mon draguera à la rivière. Et après, demanda le jeune homme, haussant les épaules avec une insouciante indifférence, de rapides courants intérieurs existent, n'est-ce pas ? Et on ne retrouve pas tout le monde. » Il y eut une pause. « Êtes-vous prêt ?» demanda finalement le chirurgien. « Parfaitement. » La réponse était faite d'un ton froid et résolu. Les manières du chirurgien dénotaient toutefois un trouble réel. La pâleur qui avait envahi son visage, au moment où il avait pris une décision, devint intense. Un tremblement nerveux le secouait. Au-dessus brillait toujours la flamme de l'enthousiasme. « Avez-vous choisi le moyen ?» demanda-t-il. « Oui, anesthésie absolue. Et l'agent ?»« Bon, le plus sûr, le plus rapide. Désirez-vous quelques sensations subséquentes? Non, l'animation seulement. Simplement m'éteindre comme une bougie au souffle du vent. Un somme, un souffle, puis la nuit, sans trace. Le souci de votre propre sécurité vous suggéra la méthode la meilleure. Je m'en remets à vous. Aucun souvenir à vos amis? Aucun. Il y eut une nouvelle pause. M'avez-vous dit que vous étiez prêt? Demanda le chirurgien. Tout prêt. Et parfaitement consentant. Désireux est le mot. Alors, attendez un instant. Sur ces mots, le vieux visiteur chirurgien se leva et se détira. Puis, avec la furtive circonspection d'un chat, il ouvrit la porte et jeta un coup d'œil dans le corridor, écoutant attentivement. Aucun bruit. Il referma doucement la porte et en tourna la clé. Puis il tira les volets et les fixa. Cela fait, il ouvrit une porte conduisant dans une pièce contiguë qui n'avait pas de fenêtre et qu'éclairait seulement une petite lucarne. Le jeune homme le suivait attentivement des yeux. Un grand soulagement se lisait sur ses traits et avait remplacé l'air d'égarement et de désespérance qu'il avait une demi-heure auparavant. Abattu tout à l'heure, il semblait maintenant dans le ravissement. Cette porte, en s'ouvrant, laissait voir un spectacle curieux. Au centre de la pièce, juste au-dessous de la lucarne, était une table d'opération comme celle dont se servent les professeurs d'anatomie. Une vitrine, contre le mur, renfermait les instruments de chirurgie les plus variés. Dans une autre vitrine étaient suspendus des squelettes de différentes tailles. Sur des rayons étaient rangés des bocaux cachetés, renfermant, conservés dans l'alcool, des monstruosités de toutes sortes. Parmi les objets innombrables épars dans la pièce, se trouvait encore un écorché, un chat empaillé, un cœur humain assez desséché, des moulages de différentes parties du corps, des schémas et un grand assortiment de drogues et de produits chimiques. Il y avait aussi un grand sofa pouvant se former en lit. Le chirurgien l'ouvrit et, tirant de côté la table d'opération, mit le sofa ouvert à sa place. Entrez, dit-il à son visiteur. Le jeune homme obéit sans la moindre hésitation. Ôtez votre veste, ainsi fut fait. Couchez-vous sur ce lit. Un instant après, le jeune homme était étendu tout de son long, observant le chirurgien. Celui-ci, sans aucun doute en proie à une très grande excitation, n'hésitait cependant pas. Ses mouvements étaient sûrs et prompts. Choisissant une fiole, il mesura avec soin une certaine quantité du liquide qu'elle renfermait. Et pendant qu'il était ainsi occupé, il demanda: N'avez-vous jamais eu de troubles au cœur? Non. La réponse fut prompte, mais immédiatement suivie d'un regard ironique à l'adresse de l'interlocuteur. Je présume, ajouta-t-il, que votre question signifie qu'il pourrait être dangereux de me faire absorber une certaine drogue. Ah, étant donné les circonstances, cependant, j'avoue de ne pas saisir l'à propos de votre demande. Cela déconcerta un moment le vieux chirurgien. Mais il se hâta d'expliquer qu'il était soucieux de ne pas lui infliger une douleur inutile. Il posa le verre sur la table, s'approcha de son visiteur et soigneusement lui tâta le pouls. Mais c'est merveilleux! S'écria-t-il. Pourquoi? Ben, il est parfaitement normal. Parce que je suis complètement résigné. Il y a même longtemps que je n'ai éprouvé pareil bonheur. Il n'est point actif, mais infiniment doux. Vous n'avez aucun désir latent de vous dédire? Aucun. Le chirurgien se dirigea vers la table et revint avec le breuvage. Prenez ceci, dit-il avec bonté. Le jeune homme se souleva et prit le verre. Pas un de ses muscles ne tressaillit. Il but le liquide jusqu'à la dernière goutte, puis rendit le verre avec un sourire. Dans l'intervalle, il avait reconquis tout son empire sur lui-même. J'ai cru entendre quelqu'un dans la maison tout à l'heure, dit-il. Mais je ne trouve personne. Je n'ai rien entendu. Il éprouva un réel soulagement. Oh, j'ai cependant entendu frapper à la porte, il y a moins d'une heure, reprit-elle. Et je vous ai, je crois, entendu causer. L'avez-vous fait entrer? Non. La femme regarda les pieds de son mari et parut embarrassée. Mais je suis presque certaine, dit-elle, d'avoir entendu un bruit de pas dans la maison. Cependant, je m'aperçois que vous avez vos pantoufles. Oh, mais j'avais mes souliers tout à l'heure. Ah, voilà qui explique tout, dit la femme satisfaite. Ce sont des rats que nous avons entendus. Oh, c'est bien possible, fit le chirurgien. Il s'en alla. Il avait refermé la porte. Il la rouvrit pour dire « Oh, je voudrais bien ne pas être dérangé aujourd'hui. » Et tandis qu'il longeait le corridor, il se disait « Bah, de ce côté, tout va bien. » Il regagna la pièce où gisait le visiteur qu'il examina soigneusement. « Le splendide spécimen, » fit-il à voix basse. « Tous les organes sont sains, toutes les fonctions parfaites. » Le corps est beau, les muscles sont bien formés, forts et nerveux, susceptibles d'un développement merveilleux si l'occasion leur en est donnée. Oh, je ne doute pas que je ne puisse se faire. Déjà, j'ai réussi avec un chien, tâche moins difficile que celle-ci, car chez l'homme, le cerveau recouvre le cervelet, ce qui n'est pas le cas chez le chien. Voici qui offre un vaste champ aux expériences, avec une occasion unique dans le cours de toute une vie. Dans le cerveau, l'intelligence et les affections, dans le cervelet, les sens et les forces nourrices, motrices, et dans la moelle allongée, le centre respiratoire, et dans le cervelet, la moelle, se trouvent tous les principes essentiels de la simple existence. Le cerveau n'est qu'une parure. En fait, la raison et ses affections servent presque purement d'ornement. Je l'ai prouvé déjà. Mon chien, le cerveau une fois enlevé, était idiot, mais dans une certaine mesure, il conservait tous ses sens physiques et psychiques, et tout en se parlant ainsi, il faisait de diligents préparatifs. Il éloigna la couchette, replaça la table d'opération au-dessous de la lucarne, choisit un certain nombre d'instruments, prépara certaines drogues, disposa de l'eau, des serviettes et tous les accessoires d'une longue opération chirurgicale. Et soudain, il éclata de rire. Pauvre niais, s'écria-t-il, m'avoir payé 5 000 $ pour le tuer, n'avoir pas le courage de souffler lui-même sa bougie. Singulière, singulière, bizarre, les lubies qu'on s'est fous. Tu croyais mourir, pauvre idiot. Permettez-moi, monsieur, de vous informer que vous êtes aussi vivant en ce moment que vous l'étiez tout à l'heure. Mais pour vous, ce sera tout comme. Jamais vous ne serez plus conscient que vous ne l'êtes en ce moment. Et pour toute fin pratique, en ce qui vous concerne, vous êtes dorénavant mort, quoique vous deviez vivre. Soit dit en passant, que diriez-vous de perdre la tête? Mais c'est une plaisanterie macabre. Il se souleva de la couchette, le corps inerte, et l'étendit sur la table. Trois ans après environ, la conversation suivante avait lieu entre le chef de la police et l'un de ses agents. « Elle pourrait bien être folle, » suggérait le chef. « Bon, je pense qu'elle l'est en effet. » « Cependant, vous ajoutez foi à ces dires ?»« Oui. » »« Singulier. »« Du tout, du tout. Mais j'ai de mon côté appris quelque chose. »« Quoi ?»« Bien beaucoup dans un sens et peu dans l'autre. »« Vous savez les bruits bizarres qui circulaient sur son mari ?»« Eh bien, ils sont tous absurdes. »« Probablement une exception près. » C'est à tout prendre un vieillard inoffensif, mais original. Il a fait de merveilleuses opérations chirurgicales. Les gens de son voisinage sont des ignorants. Ils le craignent et voudraient se débarrasser de lui. De là un tas de racontars qu'ils colportent de tous côtés et auxquels ils finissent par croire eux-mêmes. Le seul fait important que j'ai retenu, c'est qu'il est presque follement enthousiaste des questions de chirurgie, et en particulier de chirurgie expérimentale. Or, chez un enthousiaste, il n'y a guère place pour le scrupule. C'est là ce qui me fait croire au dire de cette femme. Dites qu'elle paraissait terrorisée, doublement, et parce qu'elle craignait que son mari n'apprît sa trahison, et parce que aussi la découverte en soi l'avait épouvantée. Mais ce qu'elle raconte de cette découverte est bien vague, dit le chef. Il lui cache tout, soigneusement. Et on est réduite à de simples hypothèses. En partie oui, en partie non. Elle a entendu des sons, bien entendu, qu'elle n'a pas pu les distinguer nettement. L'horreur lui ferma les yeux. Ce qu'elle croit avoir vu est, je l'admets, parfaitement absurde, mais elle a certainement vu quelque chose de terrifiant. Il y a beaucoup de petits détails intéressants. Il n'y a que rarement partagé ses repas pendant ces trois dernières années. Et presque toujours, il emporte ses aliments dans ses pièces réservées. Elle prétend, ou bien qu'il en consomme une énorme quantité, ou bien qu'il les jette, ou bien qu'il nourrit un être quelconque d'un appétit féroce et prodigieux. Alors il lui donne comme explication qu'il garde des animaux sur ses expériences. Or, c'est faux. De plus, il tient toujours la porte de ses chambres soigneusement fermée. Ce n'est pas tout. Il a fait faire des doubles portes renforcées, fait poser de solides barreaux à une fenêtre qui cependant ne donne que sur une très haute muraille, sans ouverture aucune, et qui n'est distante que de quelques pieds. « Alors, que signifie tout cela ?» demanda le chef. Ben, « C'est une vraie prison, pour animaux peut-être. Certainement pas. Pourquoi ?»« Parce qu'en premier lieu, des cages eussent infiniment mieux valu. En second lieu, les précautions qu'il a prises ne sont nullement en rapport avec celles qu'il exigerait la présence de quelques animaux ordinaires. Mais tout peut s'expliquer aisément. Ne pourrait-il pas avoir un traitement quelque fou dangereux ? Mais j'avais songé. Mais ce n'est pas non plus le cas. Comment le savez-vous? En raisonnant ainsi. Il a toujours refusé le traité des quatre folies. Il s'en tient à la chirurgie. Les murs ne sont pas matelassés, car la ferme femme les a entendus résonner sous des corps furieux. Aucune force humaine, pour morbide qu'elle fût, n'expliquerait les précautions prises. Il n'est pas probable qu'il cacherait à sa femme la présence d'un fou confié à ses soins. Il n'est pas de fou susceptible d'absorber tous les aliments qu'il emporte. Une folie furieuse, assez violente pour nécessiter toutes ces précautions, ne saurait-ce continuer pendant 3 ans. S'il y avait un fou dans l'affaire, s'en seraient suivies certaines communications avec des gens du dehors, parents de son malade. Et il n'y en a pas eu. La femme a écouté à la serrure et n'a jamais entendu de bruit de voix. Et enfin, nous avons la description vague que la femme nous a faite de ce qu'elle a vu. J'y avais songé, mais ce n'est pas non plus le cas. Comment le savez-vous? En raisonnant ainsi, il a toujours refusé le traité des quatre folies. Il s'en tient à la chirurgie. Les murs ne sont pas matelassés, car la femme les a entendus résonner sous des coups furieux. Aucune force humaine, pour morbide qu'elle fût, n'expliquerait les précautions prises. Il n'est pas probable qu'il cacherait à sa femme la présence d'un fou confié à ses soins. Il n'est pas fou susceptible d'absorber tous les aliments qu'il emporte. Une folie furieuse, assez violente pour nécessiter toutes ces précautions, ne saurait se continuer pendant 3 ans. Et s'il y avait un fou dans l'affaire, il en serait suivi certaines communications avec des gens du dehors, des parents du malade. Il n'y en a pas eu. La femme a écouté à la serrure et n'a jamais entendu de bruit de voix. Et enfin, nous avons la description vague que la femme nous fait de ce qu'elle a vu. Vous avez détruit toutes les suppositions possibles, dit le chef, profondément intéressé. Mais vous n'avez pas suggéré de rien de nouveau. Je ne le puis pas, malheureusement. La vérité pourrait être simple, après tout. Mais le vieux chirurgien est si original que je n'attends cependant à découvrir quelque chose de surprenant. Avez-vous des soupçons? Oui. Et sur quoi? Un crime. La femme le soupçonne également. Et le dénonce? Oh, certainement. Parce qu'il est tellement terrible que son humanité se révolte. Tellement terrible que tout son être lui crie de livrer le criminel à la justice. Tellement épouvantable qu'elle vit dans une mortelle terreur. Tellement effrayant que son esprit en est troublé, branlé. Et que vous proposez-vous de faire? Demanda le chef. Trouver une preuve. Et je puis avoir besoin du monde. Vous aurez tous les agents que vous jugerez nécessaires. Mais soyons circonspects. Vous êtes là sur un terrain dangereux. Vous ne seriez qu'un jouet entre les mains de cet homme. 2 jours après, l'agent de nouveau se présentait devant son chef. « J'ai un document bizarre, » dit-il en tirant de son poche des fragments de papier couverts d'écriture. La femme les a volés et me les a apportés. Elle a voulu arracher une poignée de feuillets d'un cahier, mais elle n'a pu prendre qu'une partie de chacun. Les deux hommes arrangèrent de leur mieux ces fragments qui avaient été, et expliqua l'agent, arraché par elle d'un cahier qui fermait le premier volume d'une série de manuscrits que son mari avait précisément rédigé sur le sujet même qui causait sa terreur. Vers l'époque où, il y a 3 ans, il entreprit une certaine expérience, continua l'agent, Il enleva tout ce qui se trouvait dans les deux pièces contiguës qui forment son cabinet de travail et son laboratoire. Et dans une des bibliothèques qui se trouvèrent ainsi déplacées, était un tiroir qu'il tenait fermé, mais qu'il ouvrait de temps à autre. Or, ce qui est assez commun pour ce genre de meuble, la serrure ne vaut pas grand-chose. Et la femme, en cherchant bien hier, a fini par trouver dans son trousseau une clé qui s'y adaptait parfaitement. Elle a ouvert le tiroir, tiré de dessous une pile de cahiers, le dernier, afin que le larcin échappât plus facilement à une découverte, et voyant que l'on pourrait trouver un indice, en déchira une poignée de feuillets. Elle avait à peine eu le temps de remettre le cahier à sa place, de refermer le tiroir et de disparaître, que son mari survenait. Il la perd presque jamais de vue quand elle est dans cette partie de la maison. Les fragments rapportés se lisaient comme suit. L'énermoteur. J'avais à peine osé prévoir pareil résultat, bien que par induction, j'eusse connu à leurs possibilités, mon seul doute reposant sur mon manque d'habileté. Leur action n'a été que légèrement altérée, et même elle n'avait pas été du tout si l'opération avait été faite dès l'enfance, avant que l'intelligence eût cherché et pris sa place comme partie essentielle du tout. Je tiens donc pour prouver que ces cellules de nerfs moteurs ont des forces inhérentes suffisantes au rôle de ces nerfs. Il en est à peine de même pour les nerfs sensitifs. Ces derniers sont, par le fait, un produit des premiers, dérivé d'eux par hétérogénéité naturelle, quoique non essentielle, et dans une certaine mesure, ils dépendent de l'évolution et de l'expansion d'un résultat parallèle qui se développe en fonction mentale. Ces deux derniers résultats, ces dérivés ne sont que des affinages du système moteur et non les entités indépendantes. C'est-à-dire que ce sont les fleurs d'une plante qui se propagent de la racine. Le système moteur est le premier. Et je ne suis pas surpris du développement de cette prodigieuse puissance musculaire. Elle promet de surpasser les rêves de force humaine les plus insensés. Je l'explique ainsi. Les forces assimilatrices avaient atteint leur complet développement. Elles avaient acquis l'habitude d'une certaine somme de travail. Elles distribuaient leurs produits à toutes les parties du système. Mon opération a eu pour résultat de réduire d'une moitié la consommation de ces produits, est-ce à dire qu'une moitié environ de la demande a été supprimée. Mais la force de l'habitude nécessitait la distribution de ces produits. Ces produits, c'était la force, la vitalité, l'énergie. Ainsi doublée, cette somme habituelle de force, d'énergie, s'est emmagasinée dans le reste, a produit un résultat qui certes m'a stupéfié. La nature, ne subissant plus le traitement de ces interventions étrangères, étant enfermée en même temps, pour ainsi dire coupée en deux dans le cas actuel, ne s'est pas complètement accommodée de sa nouvelle situation, comme le fait un aimant qui, quand on le brise au point d'équilibre, renaît entièrement de chacun de ses fragments qui investit tous les deux pôles opposés. Au contraire, soustrait à des lois qui jusque-là l'avaient dominé, et possédant toujours cette mystérieuse propension à se développer en quelque chose de plus potentiel et de plus complexe, elle a, à l'aveuglette, ayant perdu sa lanterne, augmenté sa demande d'aliments destiné à lui assurer ce développement, les a tout aussi aveuglément absorbés quand elle les a reçus. De là, cette merveilleuse voracité, cette insatiable faim, cette étonnante gloutonnerie. Et de là aussi, puisqu'il n'y a plus rien que la partie physique qui peut recevoir cet immense approvisionnement d'énergie, cette force qui, d'heure en heure, devient plus herculéenne, presque chaque jour plus effrayante. Cela devient sérieux. J'ai échappé belle aujourd'hui. Et je ne sais comment, pendant une de mes absences, il a dévissé le bouchon en fermant le tube d'alimentation en argent que déjà j'ai dénommé bouche artificielle. Et au cours d'une de ces curieuses gambades, il a laissé tout le chil s'échapper de son estomac par le tube. Sa faim est alors devenue intense, je pourrais dire furieuse. J'ai essayé de le prendre et de le maintenir sur une chaise, mais il m'a saisi, il m'a pris par le cou. Il m'aurait instantanément broyé si je n'avais pu glisser de sa puissance étreinte. Il me faut toujours être sur mes gardes. J'ai pourvu le bouchon à vis d'un ressort à cliquet. Et habituellement dolce quand il n'a pas faim, très docile, lent et lourd dans ses mouvements qui sont naturellement tous inconscients. Toute excitation apparente du mouvement est due à une des irrégularités locales dans l'approvisionnement du sang au cervelet que j'exploserais si je l'avais enfermé dans un coffret d'argent que je ne puis pas déplacer. Et le chef regarda l'agent d'un air embarrassé. « Il comprend rien du tout, » dit-il. « Oh, dis-moi, » avoua l'agent. « Alors qu'avez-vous donc l'intention de faire ?»« Pénétrer dans l'immeuble. »« Voulez-vous quelqu'un ?»« Oh, il me faut 3 hommes. »« Les 3 les plus vigoureux. » »« Mais le chirurgien est un faible vieillard. »« Soit, mais il me faut néanmoins 3 hommes vigoureux. » »« Et même dans le cas présent, » si j'écoutais la voix de la prudence, à 1 heure du matin, le lendemain, on eût pu entendre gratter avec circonspection au plafond du laboratoire du chirurgien. Quelque temps après, la lucarne était soigneusement soulevée et déplacée. Un homme regarda par l'ouverture, mais tout était silencieux. « Oh, voilà qui est singulier !» pensa l'agent. Il se laissa prudemment glisser au moyen d'une corde jusqu'au sol et resta là quelques instants, l'oreille tendue, attentif. Le silence. Il fit jouer le couvercle d'une lanterne sourde et rapidement balaya la chambre d'un jet de lumière. Elle était vide, à l'exception d'un solide crampon de fer et d'un anneau vissé dans le plancher au centre de la pièce. Et à l'anneau était fixée une lourde chaîne. L'agent voulut alors examiner la seconde chambre, parfaitement vide aussi. Très embarrassé, il retourna dans la première et doucement appela ses hommes, leur disant de descendre. Pendant ce temps, il passait de nouveau dans la pièce contiguë pour examiner la porte. Un seul coup d'œil lui suffit. Un système spécial la maintenait close et une cadole à ressort qui se pouvait tirer de l'intérieur la fermait solidement. « Oh, l'oiseau vient de s'envoler !» pensa l'agent. « Singulier hasard !»« Si ma supposition est juste, oui, seul hasard pourrait amener la découverte de ce verrou particulier. » Et de son maniement. Ces hommes l'avaient maintenant rejoint. Sans bruit, il tira le verrou, ouvrit la porte et regarda dans le corridor. Il entendit un bruit particulier. On dit d'un gigantesque homard jouant des pattes et des pinces et s'avançant dans quelque partie éloignée de la vieille maison. Ce bruit était accompagné d'une respiration forte et sifflante, entrecoupée de hoquets convulsifs. Une autre personne entendit ces bruits, la femme du chirurgien. Il se faisait en effet entendre tout proche de sa chambre, située bien loin de celle de son mari. Son sommeil était léger, torturée qu'elle était par la peur et harassée par d'épouvantables rêves. La conspiration où elle était entrée pour consommer la ruine de son mari lui était une source d'angoisse. Elle ne vivait plus que dans une atmosphère de terreur. À cette horreur naturelle de la situation s'ajoutaient ces innombrables sources de crainte que crée et que grossit un esprit ébranlé, réveillé en sursaut de son sommeil fiévreux par ce bruit à sa porte. Elle sauta de son lit. L'idée de fuir, l'un des instincts les plus puissants, s'empara d'elle, et elle courut à la porte, sa raison ayant perdu tout contrôle. Elle tira son verrou, ouvrit brusquement sa porte et s'enfuit follement par le corridor, tandis qu'à ses oreilles le sifflement effrayant et les hoquets convulsifs résonnaient avec une intensité mille fois plus grave. Mais le corridor était plongé dans la plus complète obscurité. Elle n'avait pas fait 10 pas qu'elle allait buter contre un objet invisible sur le plancher. Elle tomba tout son long sur une masse large, molle et chaude qui se tordait et se tortillait et d'où s'échappaient les bruits qui l'avaient éveillée. Se rendant immédiatement compte de sa situation, elle poussa un hurlement d'indicible terreur et le cri avait à peine éveillé les échos du corridor, vide, qu'il était aussitôt étouffé. Des bras vigoureux s'étaient refermés sur elle et l'avaient broyée. Son cri eut pour résultat d'indiquer à l'agent et à ses aides la direction à prendre. Il avait en même temps réveillé le vieux chirurgien dont la chambre était située entre les agents et le but de leur recherche. Ce cri d'agonie l'avait transpercé jusqu'à la moelle. « Oh, c'est enfin arrivé !» bégaya-t-il, terrifié, en sautant de son lit, saisissant sur une table une lampe dont il avait, en se couchant, simplement baissé la mèche, et un long couteau que depuis 3 ans il gardait toujours à sa portée, se précipita dans le corridor. Les 4 agents s'étaient élancés, mais quand ils le virent surgir, ils s'arrêtèrent, silencieux. Il y eut un instant de calme. Le chirurgien fit une pause pour écouter. Il entendit le sifflement et la marche gauche d'une masse vivante dans la direction de la chambre de sa femme. Évidemment, cette masse s'avançait vers lui, mais un coude du corridor empêchait qu'il la vît. Il leva sa lampe qui révéla la mortelle pâleur de son visage. « Femme !» appela-t-il, point de réponse. Il avança rapidement, suivi de 4 agents. Il tourna l'angle du corridor et courut si rapidement qu'avant d'être aperçu de nouveau par les agents, il avait sur eux une avance de 20 pas. Sans s'arrêter, il dépassa une masse énorme, informe, qui s'avançait en s'agitant, en rampant, en se tortillant, et arriva au cadavre de sa femme. Il jeta un regard épouvanté sur son visage, et s'éloigna en chancelant. Puis une fureur soudaine s'empara de lui, étreignant solidement son couteau, et levant haut sa lampe, il s'élança vers la masse dégingandée qui oscillait dans le corridor. C'est alors que les agents virent s'avancer avec précaution, virent un peu plus clairement, quoique de façon assez indistinctement, l'objet de la colère du chirurgien et la raison de l'inexplicable angoisse peinte sur ses traits. Le hideux spectacle les fit s'arrêter. Ils virent ce qui apparemment était un homme, et cependant n'était évidemment pas un homme. Épais, grossier, difforme, masse trébuchante, chancelante, grouillante, complètement nue. Ses larges épaules se dressèrent. Il n'avait point de tête. À sa place, une petite boule de métal surmontait le cou massif. « Démon !» hurla le chirurgien, levant son couteau. « Arrêtez !» commanda rudement une voix. Le chirurgien brusquement leva les yeux et vit les quatre agents. Un instant, la peur paralysa son bras. « Oh, la police !» murmura-t-il. Alors, avec un regard de fureur décuplée, il lança le couteau qui s'enfonça jusqu'à la garde dans la masse grouillante devant lui. Le monstre blessé se mit sur ses pieds et battit follement l'air de ses bras, tandis que des sons terribles s'échappaient d'un tube d'argent par lequel il respirait. Le chirurgien cherça à lui porter un second coup, mais il n'en eut pas le temps. Sa fureur aveugle lui avait fait perdre toute prudence. Il fut saisi par une étreinte de fer. Dans la lutte, la lampe alla rouler à quelques pas des agents. Et en touchant le sol, elle se brisa. Et simultanément, l'huile prit feu et le corridor s'emplit de flammes. Les agents ne pouvaient approcher. Devant eux se dressait un rideau de feu, et derrière, en toute sécurité, les deux formes humaines luttaient, étroitement enlacées. Ils entendirent des cris, des hoquets. Ils virent luire la lame d'un couteau. Le bois de la maison était vieux et sec. Il s'embrasa vite, et les flammes se propagèrent avec une invraisemblable rapidité. Les quatre agents battirent en retraite et eurent toutes les peines du monde à s'échapper. Une heure après, plus rien ne restait de la mystérieuse habitation et de ses locataires, sauf un amas de ruines noircies.